Le texte de la prédication était sur la vidéo, puisque c'est Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 32 et 34, à 34. Et si, en fait, les frères et sœurs recommandaient, pour animer le culte, en fait, de prendre les Bibles à l'entrée pour que personne n'ait de Bible dans la salle, parce que beaucoup de chrétiens persécutés ne peuvent pas posséder une Bible. Alors, moi, j'avais plutôt envie de faire l'inverse, c'est que vraiment chacun ait sa Bible et puisse lire dans sa Bible les versets en question. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et puis il y a aussi ce verset du chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Voilà l'Épître aux Hébreux, qui pour certains était en fait constitué certainement à Rome avec des Juifs. Probablement qu'ils avaient subi une grande persécution lorsque, en 49, sous l'empereur Claudius, les chrétiens et les Juifs ont été expulsés de Rome, laissant derrière eux toutes leurs possessions, et c'est peut-être à cela que fait allusion le texte du chapitre 10, lorsqu'il dit « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens ». Ce sont des situations qui se renouvellent régulièrement dans l'histoire, depuis les premiers jours de l'Église. Et pourquoi ? Bien, tout simplement parce que ceux qui se convertissent, lorsque quelqu'un se convertisse, lorsqu'il y a un mouvement de conversion, eh bien ceux qui se convertissent quittent la croyance suivie par la majorité. C'est aussi simple que cela. Il y a des croyances qui sont établies et tous des liens sociaux qui sont qui existent à travers donc la croyance d'un peuple. Et eh bien lorsque quelqu'un se convertit, il vient bousculer tout cet ordre et il est alors vraiment une gêne pour la vie de la population concernée. Et l'opposition est particulièrement forte et féroce lorsque nous faisons le choix de suivre le Christ. Il y a des gens qui peuvent changer aussi d'idée, de pensée par rapport à leurs origines. Mais lorsque c'est une question de suivre Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'il y a véritablement de grandes persécutions. Mais en même temps, s'il y a persécution parce qu'il y a changement dans l'ordre établi, c'est le signe que Dieu est à l'œuvre et c'est le signe que l'Église est en train de croître, de se développer. Ça a été le cas à Jérusalem. Et ensuite, ça a été le cas partout dans le monde, et c'est encore le cas aujourd'hui. En Inde, l'exemple, donc, il y a plusieurs grands, on peut dire, foyers de persécution depuis une ou deux décennies. Et l'Inde, l'hindouisme, est un de ces lieux où les chrétiens, donc, subissent la persécution, et en partie, particulier parce qu'ils sont nombreux à quitter l'hindouisme pour venir à Christ. Il y a vraiment de grands mouvements de conversion. Et souvent, ces nouveaux convertis viennent des minorités tribales, de castes aussi très basses. Et donc, vous connaissez le système des castes en Inde. Et pour les obliger à se reconvertir à l'hindouisme, eh bien, il y a des campagnes, en quelque sorte, de retour à la maison. Les hindous entrent en force dans les villages et usent de violence et de menaces, obligeant les nouveaux convertis à revenir à l'hindouisme. Dans le monde musulman, ceux qui sont le plus persécutés ne sont pas les membres des églises traditionnelles, parce que dans le monde musulman, il y a des églises chrétiennes qui sont établies depuis plusieurs siècles. Mais c'est lorsqu'il y a des mouvements de conversion parmi les musulmans qu'il y a de grandes persécutions, comme par exemple en Iran. Et selon certains, c'est l'église qui grandit le plus vite au monde aujourd'hui, en Iran. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de conversions. Et à ce moment-là, eh bien, bien sûr, ça met en cause surtout la République islamique, l'Iran. Hein, eh bien, ça met vraiment en cause cette République islamique. Donc là, il y a de graves persécutions. Et voilà, des discriminations pour justement empêcher les chrétiens de pouvoir se développer. Mais il y a ici la citation d'un chrétien chinois. « Si vous étiez aussi actifs dans votre évangélisation en Europe que nous en Chine, vous aussi vous seriez persécutés. » Bien sûr, ça nous interroge sur notre propre, on peut dire, témoignage. Mais même en Chine, il est mentionné plus loin que, en fait, dans les grandes villes, il y a toute une génération de Chinois qui n'ont pas connu la persécution parce qu'ils avaient des parents chrétiens et que maintenant la situation s'est installée et est tolérée dans les grandes villes en Chine. Donc finalement, ils vivent la foi un peu comme nous on la vit. Mais dans les campagnes, la Chine est un immense pays, dans les campagnes, il y a toujours la même persécution qu'auparavant. Alors la persécution vient aussi pendant des périodes de réveil. Ce que nous avons particulièrement connu au XVIe siècle, ce sont les 500 ans de la Réforme. Et là, ben, c'était une société supposée chrétienne. Et pourtant, il y a eu persécution. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu réveil de la foi et retour à la parole de Dieu. Et que, là encore, ça a bousculé ce qui était établi. Et donc, on connaît assez bien quand même l'histoire. Les chrétiens de l'époque se réunissaient en secret, et on appelait cela donc le désert, après la révocation de l'édit de Nantes, hein, dans les forêts et les montagnes. Et là aussi, il y a eu beaucoup de spoliations de biens qui ont été volés, par exemple lors des dragonnades. Ils lisaient la Bible en secret et fuyaient vers leur refuge, c'est-à-dire des villes comme Genève ou bien les pays protestants comme les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, où la persécution là n'existait pas. Et donc refuge, ville de refuge, c'est ça qui a donné le mot réfugié, qui est beaucoup utilisé maintenant. Donc bien sûr, il y a eu beaucoup qui ont été emprisonnés, avec aussi les galères, etc., les bûchers aussi. Marie Durand, qui est citée, donc, est un exemple, puisqu'elle a été emprisonnée à la tour de Constance de 1730 à 1768, 38 ans d'enfermement en raison de sa foi protestante. Et c'est elle qui a gravé donc ce mot « résister » sur la margelle donc du puits qu'ils avaient, je crois. Alors, il y a deux noms qui sont cités ici et que moi, je ne connaissais pas du tout parce que le nombre de témoins est innombrable. Et il y a Philibert Hamelin, un ancien prêtre français qui était devenu protestant, et il a mis en place une imprimerie de Bible à Genève, et quand il est retourné en France, il a été condamné à mort et tué en 1557 à Bordeaux. Alors j'ai trouvé quelques renseignements sur lui, donc sur les sites voilà, classiques de l'histoire du protestantisme, et puis aussi même sur Wikipédia. Il se trouve, par contre, il y a un autre qu'on ne trouve pas, ou parce qu'il y a tellement de noms identiques, c'est Nicolas Ballon. Alors si vous tapez Nicolas Ballon, vous n'allez pas le trouver parce qu'il y a plein de Nicolas Ballon, mais il n'y a pas celui-là. Du moins, ou alors il faut peut-être aller à la page 100 du moteur de recherche. Alors, il a fait plusieurs voyages de contrebande entre la Suisse et la France pour passer des Bibles. Il a été arrêté et tué en 1556 à Poitiers. Parce qu'en fait, la diffusion de l'écriture à partir de Genève était vraiment on peut dire, le moyen de répandre les idées de la Réforme. Il y avait le refuge à Genève, il y avait Calvin, etc., qui était là-bas. Et il y avait beaucoup d'impressions, d'ouvrages, et donc certains partaient comme des colporteurs, donc, avec des Bibles, avec des ouvrages de piété, et ils allaient donc en France pour répandre cette littérature. Et voilà, plusieurs ont été de ce fait arrêtés et exécutés à cause de la diffusion de la parole de Dieu. Donc pourquoi est-il important de se souvenir de cette persécution-là? Eh bien parce que ça peut nous encourager, nous, à persévérer et à savoir que si des difficultés surviennent pour notre témoignage, eh bien, bien d'autres ont supporté ces mêmes situations, mais ça nous permet aussi de nous identifier à ceux d'aujourd'hui qui supporte la persécution. Donc, souvenez-vous de ces premiers jours. C'est cela, donc, comment le texte, souvenez-vous de ces premiers jours. Et il est vrai que dans les premiers jours, eh bien, on est entier dans l'engagement, lorsqu'on a vraiment découvert la parole, on est entier et il y a tout ce bouleversement qui se fait. Et il est même dans nos sociétés, lorsque quelqu'un vraiment se donne à Christ et engage toute sa vie dans son obéissance, même dans nos sociétés, ça crée des situations de tension, de conflit, voilà, des choses qui sont difficiles quand même à vivre. Mais le croyant tient bon parce qu'il est porté par cette foi, par l'Esprit de Dieu qui l'anime dans les premiers jours. Donc, il faut de temps en temps se souvenir de ces premiers jours. Comment est-ce que le Seigneur nous a visités? Comment est-ce que nous avons reçu? Comment est-ce que nous avons été enthousiastes à cause de la vérité de l'Évangile, hein, pour, on peut dire, rafraîchir aussi notre engagement d'aujourd'hui. Souvenez-vous de ces premiers jours. Vous avez soutenu un grand combat. Alors, d'après les frères, le combat en question, ben, c'est celui auquel fait référence l'apôtre Paul, hein, dans 1 Corinthiens 9, 24, c'est-à-dire que c'est un combat dans le sens combattre épreuve sportive. Ce n'est pas le combat des soldats, de la guerre, mais c'est l'épreuve sportive, comme dans 1 Corinthiens 9, verset 24. 4 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voilà le combat dans lequel nous sommes amenés lorsque nous nous convertissons, nous engageons vraiment notre vie, et cela suppose donc un exercice de la foi, hein, et des abstinences, des résolutions que l'on prend, Et cela, on le fait justement lorsqu'on est rempli du feu du Saint-Esprit pour progresser dans la vie chrétienne et témoigner autour de nous de sa grâce. Alors, ici, il y a justement plusieurs formes de persécution qui sont mentionnées. Celle qui est peut-être la plus difficile, même si elle n'est pas la plus difficile physiquement, c'est celle qui consiste aux attaques publiques par des accusations mensongères et des diffamations. La persécution, donc, elle est très difficile à supporter lorsqu'il s'agit d'être confronté à des mensonges qu'on dit à notre sujet. Alors, quand on déforme nos motivations, que l'on ment au sujet même de nos actes, et là, donc, il faut vraiment... Il y a des moments où on n'a pas le moyen de rétablir la vérité. Et c'est très difficile d'accepter qu'un mensonge soit dit à notre sujet, hein, et que des gens ainsi donc, soient influencés en mal et ne puissent pas justement recevoir la validité du témoignage. Et ça, c'est une arme que Satan emploie très régulièrement, de diffuser des fausses informations, envoyer des calomnies sur les enfants de Dieu. Et ça, c'est une chose difficile à résister. Un exemple, en Indonésie, une jeune femme qui a choisi de suivre Jésus, lorsqu'elle parle à ses parents de sa conversion, elle est chassée de la maison et du village. Et en plus de ce terrible rejet, les parents font courir la rumeur qu'elle est devenue prostituée. Voilà le genre de persécution qui est vraiment très très difficile, je crois, à supporter. Et puis il y a celle-là qui consiste à l'enlèvement de nos biens. Ce que vivent les chrétiens d'Iran, c'est justement que le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement des chrétiens. Ces derniers sont emprisonnés pour être ensuite relâchés sous caution. Mais les montants requis pour la caution sont souvent exorbitants, plusieurs de dizaines de milliers d'euros, et dépouillent les familles tout en enrichissant les autorités. Une véritable spoliation des biens sous prétexte de remettre en liberté. Et ce que vivent bien sûr les chrétiens d'Irak, là, vous avez tous été témoins de cela, qui ont été chassés de leur village en 2014. En quelques heures, ils ont perdu toutes leurs possessions, maisons, biens personnels, fermes, ateliers, outils de travail, etc. Lorsqu'ils ont dû fuir donc devant l'État islamique. Un témoignage d'un chrétien d'Irak. Un combattant de l'organisation État islamique m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans la plaine de Ninive pour les infidèles et que nous devions déquerpir immédiatement. Avant de nous faire monter dans le bus en direction du Kurdistan, les djihadistes nous ont pris notre argent, nos bijoux et tous nos objets de valeur. Je n'avais plus que les vêtements que je portais et des sandales aux pieds. Ce sont des choses, effectivement, qui arrivent régulièrement. En fait, dans l'histoire, il y a toujours des périodes comme celle-là. Là, on vient d'en vivre une avec l'État islamique, où il n'est pas question d'essayer de garder quoi que ce soit. La meilleure chose, si on réussit à le faire, c'est vraiment de fuir. Troisième forme de persécution, la discrimination économique. Ça commence dès l'école, refus de donner des bonnes notes, les enfants de famille chrétienne doivent s'asseoir au fond de la classe, ou bien au village, les commerçants pratiquent des prix plus élevés pour les chrétiens. Au Pakistan, les chrétiens sont enfermés dans des quartiers de ghetto et assignés aux métiers les moins valorisants. C'est pour cela aussi que Portes Ouvertes a développé maintenant une aide matérielle aux chrétiens pour leur permettre de rebondir avec des petits métiers, etc. Donc la troisième mention, ce qui est fait ici, c'est donc vous avez accepté vous-même l'enlèvement de vos biens, vous associant, dit l'apôtre, vous associant à ceux dont la position était la même. Il y a une caractéristique des chrétiens, c'est que véritablement, ils sont unis les uns aux autres et ils se soutiennent mutuellement. C'est l'amour de Christ qui les unit, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas laisser leurs frères dans le dépouillement, dans le dénuement. Il faut absolument dans leur cœur qu'ils leur viennent en aide. Et donc c'est ce qu'avaient fait les Hébreux, vous associant à ceux dont la position était la même. En exemple, donc justement, en Érythrée, hein, plusieurs centaines de chrétiens sont emprisonnés dans les pires conditions possibles en raison de leur foi. Pour manger, ils dépendent de leurs proches. Et ces derniers, en venant leur apporter à manger, se font immanquablement remarquer par les autorités. Et pourtant, ils le font quand même. Ils ne laissent pas leurs frères et sœurs périr par manque de nourriture. Et bien sûr, c'est le rôle des associations comme Portes Ouvertes et d'autres qui recueillent des fonds dans les pays encore libres, qui recueillent des fonds pour pouvoir aller au-devant des frères et sœurs persécutés, de pouvoir les aider, les encourager, alors matériellement, mais aussi parfois par des moyens juridiques aussi, pour qu'il puisse y avoir des avocats qui défendent leur cause. Et puis, comme on a vu là, des aides économiques ou tout simplement des colis qui leur sont envoyés, remis, sans oublier, bien sûr, ce qui est la mission première de, en tout cas, une association comme Portes Ouvertes, sans oublier de procurer les Bibles, les livres d'édification qu'ils ne peuvent pas imprimer eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas se procurer puisqu'on les a privés de leurs moyens. Donc, des Bibles, des livres sont envoyés, sont passés en contrebande parfois. Il y a eu beaucoup de témoignages, en particulier avec l'association Portes Ouvertes, sur la manière dont des Bibles ont pu être envoyées dans les pays, en Chine à l'époque, en Russie, lorsque c'était encore la persécution communiste. Et dans les pays musulmans, c'est la même chose. Des Bibles parviennent par différents moyens à ceux qui sont à Christ. Voilà, donc, après, il y a différentes possibilités qui sont mentionnées ici aussi. Parfois, il faut également s'adresser nous-mêmes aux autorités, signer des pétitions ou envoyer nous-mêmes des lettres pour plaider, pour que les autorités sachent que les chrétiens de nos pays sont concernés par la situation de leurs frères et sœurs. Et parfois, cela peut être vraiment utile. C'est ce qui est en train de se faire avec cette pétition qui doit être remise à l'ONU prochainement. On peut envoyer des messages d'encouragement. Ils nous proposent de prendre une photo, par exemple, avec un petit message. Ils ont créé une application qui permet aux chrétiens de ces pays, parce que quand même, je pense maintenant dans tous les pays du monde, les gens ont des smartphones et les chrétiens les utilisent aussi à bon escient pour recevoir des messages de soutien et d'édification. Ce n'est pas certainement qu'ils les utilisent d'ailleurs davantage que nous-mêmes personnellement. Nous utilisons moins ces moyens, ces messageries, etc., qu'eux peuvent le faire, parce que c'est leur seule façon de pouvoir recevoir un soutien. Alors bien sûr, la prière, c'est le premier moyen que nous avons. Mais j'aime bien la conclusion de ce message. N'oublions pas que les chrétiens persécutés eux-mêmes prient pour nous. Ce n'est pas à sens unique. Dans ces pays, lorsqu'il y a eu les attentats de Paris, etc., les chrétiens, même de Corée du Nord, eh bien, ont fait savoir qu'ils priaient pour la France. Voilà, ils ne peuvent rien faire matériellement, mais ils ont vraiment à cœur aussi leurs frères et sœurs des pays donc, occidentaux. Alors, remercions le Seigneur. Voilà, tout ça, c'est quand même le témoignage que Dieu continue d'agir dans le monde et que son Église est vivante. Et si jusqu'à la fin, eh bien, il y aura des persécutions, ça veut dire aussi que jusqu'à la fin, Dieu est à l'œuvre pour attirer des âmes à lui, pour que le message de l'Évangile parvienne et sauve pour l'éternité ceux qui sont encore dans le péché. Donc le Seigneur agit, même si parfois on est vraiment choqué de situations vraiment extrêmes que peuvent vivre lorsqu'il y a des assassinats de masse, etc., des tortures, comme on a vu encore très récemment. On aimerait que Dieu intervienne et puis empêche cela. Mais c'est une œuvre qui se poursuit dans le temps et le Seigneur finalement se glorifie. Il y a eu toute une période très difficile dans les pays d'Asie d'Extrême-Orient, comme le Laos. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'une sœur parmi nous soit arrivée en France suite à ces périodes de troubles et vive avec le Seigneur maintenant en ayant découvert la foi donc à travers toutes ces péripéties. Et il y a des communautés qui sont constituées aujourd'hui même en France de réfugiés, de ceux qui ont été persécutés dans d'autres pays et qui maintenant peuvent dans la paix vivre à nouveau la foi. Donc il faut vraiment bénir le Seigneur. Beaucoup des Syriens qui sont arrivés dans nos pays étaient des chrétiens qui ont été persécutés là-bas. Donc il y aura certainement aussi des communautés de Syriens qui se constitueront et glorifieront le Seigneur dans près de chez nous. Alors, rendons gloire à Dieu pour cela.